Alors, le thème, c'est plus ou moins sur le jubilé. Et là, ce sera plus spécialement pour demander pardon. Pas pour donner notre pardon, mais pour le demander. Après, on verra le pardon proprement dit la fois prochaine et la fois suivante. Il y aura trois haltes sur ce thème. Donc, le jubilé a commencé. Et vous savez, au point de départ dans le Lévitique, chez les Juifs, alors savoir si c'était vraiment bien vécu ou pas, ça c'est une autre affaire, mais en tout cas l'idée c'était que l'occasion du jubilé, tous les 49 ans plus 1, pendant cette année du jubilé, on remettait les dettes, c'était intéressant, et on libérait les esclaves. Donc dans cette même veine, en 1300, le pape Boniface, 8 je crois, quand il a lancé ce jubilé de l'année 1300, c'était alors il y a toujours cette remise de dette qui peut être tout à fait actuelle, hein, mais c'était vécu aussi pour la remise de nos péchés, de la dette de nos péchés. Alors il y a deux choses dans le péché, il y a ce qu'on appelle la peine du damne, ce qui ferait qu'on n'irait pas au ciel. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi la peine du sens. Alors ça, c'est ce qui fait qu'on irait au purgatoire avant d'aller au ciel. C'est un peu raccourci ce que je dis, mais voilà. Et alors, du coup, je me suis dit dans cette même veine, alors je ne vais pas beaucoup parler de Marie pendant ces trois prochaines haltes. Je l'évoquerai peut-être à tel ou tel moment, mais c'est sur ce thème du pardon vis-à-vis de notre passé. Qu'est-ce qu'on fait de notre passé qui est un peu encombrant ? Quelquefois, peut-être pas pour vous, mais quelquefois on peut avoir des choses du passé qui nous poursuivent. Et l'année du jubilé, c'est vraiment l'occasion rêvée pour pas traîner des boulets indéfiniment, quoi, hein, une remise de dette, de plus être esclave, voilà. Et donc, il me semble que c'est intéressant, ce début d'année, d'approfondir un petit peu, ou en tout cas d'aborder ce thème du jubilé. Alors, le mot de dette est intéressant aussi, parce que une dette, ça implique une relation entre deux personnes, deux entités, on va dire. Et dans Saint Matthieu, pour parler de la remise des offenses, Saint Matthieu en prend le mot de dette. Hein, remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettrons leurs dettes à nos débiteurs. C'est aussi ce thème de la dette dans la parabole du débiteur impitoyable. Hein, donc c'est toujours le même thème de la dette. Et le terme de dette, ça indique un déséquilibre dans la relation. Il y en a un qui doit à l'autre. Si on a offensé quelqu'un, ben on lui doit quelque chose. Et la personne qu'on a offensée, elle attend qu'on reconnaisse le mal qu'on a fait, qu'on fasse des excuses, qu'on demande pardon, qu'on répare. Voilà. Et du coup, tant que ce n'est pas fait, ben là, y a comme une asymétrie dans la relation. Alors ça, c'est quand on a offensé quelqu'un. Quand on est offensé, mais quelquefois, on fait payer à l'autre, d'une certaine manière, le fait qu'il nous a fait du mal. On peut le faire payer de mille manières, on a bien des idées. Simplement en boudant, c'est une manière de faire payer à l'autre. Voilà, et du coup, le ressentiment, la rancune... Quelque part, voilà, ça manifeste en tout cas, à partir de ce moment-là, la relation elle est plus fluide. Mais cette halte d'aujourd'hui sera plus spécialement consacrée à la demande de pardon. La fois prochaine, on parlera du pardon, et puis la fois d'après, peut-être je vous présenterai un peu la résilience, comment on peut rebondir après quelque chose de difficile dans le passé. Voilà, même s'il n'y a pas vraiment d'offenseur en quelque sorte, mais il y a bien des choses, il n'y a pas de coupable, mais n'empêche que le coupable, quelquefois, c'est nous, d'un échec, indirectement, on un échec ou toutes sortes de choses, ou un problème de santé, ou voilà. Ça, c'était l'introduction. Alors, il y aura trois parties, bien sûr. La première, c'est de simplement pour relativement rapidement, mais pour montrer comment C'est important de se réconcilier avec son passé. Ça sera la première partie. La deuxième, ça sera demander le pardon. Alors, ça sera à la fois le pardon des autres et le pardon auprès de Dieu. L'indulgence, on peut l'obtenir que si on la demande. Si on n'en veut pas, on ne la reçoit pas. Mais il faut la demander. Mais aussi, donc, demander le pardon. Donc, on y passera un petit peu plus de temps. Et puis, la troisième chose, ça sera le lien entre le pardon reçu et le pardon donné. Ça revient souvent dans l'Évangile, cette question, notamment dans la parabole du débiteur impitoyable, mais dans bien d'autres endroits de l'Évangile, ça revient. Voilà. Ça sera les trois grandes parties. Donc, je vais commencer par l'importance de se réconcilier avec son passé. Alors, c'est comme pour la digestion, hein. Il y a des gens qui ont la digestion lente, et puis il y en a qui n'ont pas de problème de digestion. Et c'est pareil pour les choses difficiles, les coups durs ou les offenses. Il y en a, c'est pas très difficile pour eux, et d'autres, alors là, c'est insurmontable. On n'est pas tous fait pareil. D'ailleurs, pardonner, ça s'apprend aussi pour une part, hein, dans l'éducation. On peut éduquer aussi au pardon, alors c'est pas automatique après, mais... Parce que quand on pardonne pas, ben voilà, on est habité par la rancune, la colère, le ressentiment. Au niveau physiologique et physique, il y a des conséquences quand on pardonne pas. Hein. Alors, hypertension artérielle. Alors, ça ne veut pas dire forcément que parce que vous avez de l'hypertension, c'est que vous n'avez pas pardonné. Il n'y a pas forcément. Mais le non-pardon a des conséquences quand même somatiques. Troubles du sommeil. Problème digestif, hein, on l'a sur le cœur, affaiblissement du système immunitaire, etc. Donc, il y a des conséquences, ça nous marque même physiquement le fait de ne pas pardonner. Voilà. Et puis en plus, dans notre relation avec les autres, on adopte une mauvaise attitude quand on est habité par le ressentiment. Je vais en évoquer cinq, il y en aurait sans doute d'autres, mais ça donne déjà quelques idées. Une première manière, quand on a vécu quelque chose de difficile, c'est de se durcir. Alors, j'accompagne souvent des célibataires, là, ici, ou assises, et quelquefois, il y en a, c'est compliqué, ils ont souffert dans une relation précédente, ils disent « Ah non, moi, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie de recommencer une relation ». Alors, je dis, mais tu veux te marier ou c'est compliqué. Alors, je peux comprendre qu'ils souffrent. Ça, je peux comprendre, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste là-dessus? Et c'est pas du tout un jugement sur la personne, parce que ça peut se comprendre, ça peut très bien se comprendre. Mais en même temps, ça ferme l'avenir. Et du coup, on prend plus le risque de la relation, on dit non, plus jamais, là, je me suis fait avoir. Ou si on s'est fait avoir dans une certaines personnes, ah ben non, plus jamais, toc, je tranche. Ça nous bloque, hein, quand on se durcit comme ça. Et ça peut nous arriver, hein, vous pouvez le constater, c'est facile à constater autour de soi. Il y a des personnes, sur certains points, qui sont bloquées, non, plus jamais, j'ai trop souffert, j'ai donné, je donnerai plus... Voilà, mais une autre manière aussi de se mal réagir, mais c'est pas encore d'ordre moral, hein, je dis pas que c'est forcément de l'ordre du péché, mais simplement c'est une réaction mal à propos, on pourrait dire, c'est de se surprotéger. Alors je vous raconte Frère Gérard, j'aime beaucoup Frère Gérard, et il souffre beaucoup de diverses manières, mais notamment il a des rhumatismes, de la chondrocalcinose, de l'arthrite, enfin, il a plein de choses désagréables. Et une année, il avait particulièrement dégusté, et du coup, après, il n'osait plus prendre les escaliers. Et ça se comprend, hein, c'est pas d'ordre moral ce que je dis. Et puis, la Providence a fait une panne d'ascenseur. Alors, on lui dit, ben, Frère Gérard, t'inquiète pas, on te met au premier étage. Et puis, t'as l'oratoire au bout du couloir. Et, on vient t'apporter de quoi manger, tout ça. Au bout de quelques jours, parce que la panne d'ascenseur a quand même duré plusieurs semaines. Donc, au bout de quelques jours, oh non, je vais retourner dans ma chambre. Donc, c'est au deuxième étage. C'est un peu plus petit, les étages. Ça fait que 5 mètres. Hein. Alors, donc, il y allait. Il a remonté l'escalier. Et puis après, 2-3 jours après, c'est un peu bête d'être en train de manger devant mon assiette comme ça, alors que les frères sont dans le réfectoire ensemble. Du coup, après, et je comprends tout à fait, quand on a souffert, on se dit, j'ai trop forcé, et maintenant je le paye. C'était un peu tout ou rien, mais il perdait beaucoup en autonomie, et du coup, il a retrouvé de l'autonomie à cette occasion-là. Bienheureuse panne d'ascenseur. Voilà. Alors, c'est aussi imagé, hein, je vous dis ça, et j'admire beaucoup Frère Gérard pour bien des choses, hein, mais du coup, quelquefois, on a besoin aussi quelqu'un qui nous aide aussi pour dire, effectivement, c'est ton réflexe, mais peut-être il faut que tu passes au-dessus de ton réflexe, parce que si tu prends l'escalier qui descend vers la cave, là, si tu t'auto-limites, hein, voilà. Et encore, il n'y a pas de jugement dans ce que je peux dire. Une troisième mauvaise attitude, c'est se victimiser. J'y reviens assez régulièrement parce que dans la société actuelle, c'est quand même une tendance. Alors, bien sûr, il y a des victimes qui ont beaucoup souffert, donc je nie pas du tout qu'il y ait des victimes. Jésus a été victime, mais Jésus ne s'est pas victimisé. Vous voyez, là, victimisé, je m'installe dans une posture, je suis victime. Et quelquefois, on n'en sort pas. Mais ça ne nous aide pas de nous installer dans une posture de victime. Alors, bien sûr, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été victime. Jésus a été victime. Mais il nous appelle à nous réapproprier notre vie. Sinon, là encore, on prend une mauvaise spirale qui nous tire vers le bas. D'autant plus qu'on n'est pas toujours 100% victime. Alors quand c'est des enfants qui ont été abusés, bien sûr. Mais quelquefois, on peut être victime dans un domaine, mais pas forcément dans un autre. Et du coup, on fait payer à tout notre entourage le fait qu'on est victime. Mais les malheureux, ils y sont peut-être pour rien. Donc, il y a quelquefois, du coup, on s'installe dans une posture comme ça qui n'est pas du tout juste. Alors, qui peut se comprendre, encore une fois, il ne s'agit pas de porter un jugement sur ces personnes qui, si on était dans la même situation, on serait peut-être pareil. Mais ça ne nous aide pas. Une quatrième manière de mal réagir, c'est ce qu'on appelle la vengeance passive. La vengeance active, c'est clair, tu m'as donné une claque, je t'en rends deux. Bon, au moins, les choses sont claires. La vengeance passive, ce n'est pas si clair que ça. On ne fait rien de mal, mais on ne fait rien de bien non plus. La bouderie, c'est de la vengeance passive. De manière plus ou moins consciente, on fait peser sur les autres, on leur fait payer, ou je ne sais pas, ce qu'ils ont fait. Peut-être qu'on ne fait rien de mal. Alors, je vous raconte, ça me vient à l'esprit. C'était il y a bien des années, j'étais à peine né, si quand même j'avais... Il y a un frère qui m'avait énervé, qui m'avait fait du mal. Je faisais rien de bien, mais rien de mal, mais rien de bien non plus. Et il est venu me voir, ça va, hein? Oui, oui, ça va, pas de problème. Sauf que... Alors, heureux frère qui m'a tendu la perche, et du coup je suis sorti, mais j'étais dans la vengeance passive. Voilà. Alors, cinquième manière, c'est d'être dans la critique, dans la plainte. Hein, c'est l'amertume. Alors, on a des gens, ils se plaignent de tout, ils critiquent tout, voilà. Mais ça rend pas heureux de critiquer. C'est toxique, ça pollue. C'est une grande pollution. Ça pollue toutes les relations, etc. C'est une plaie. Les critiques, les plaintes, etc., les médisances, les calomnies. Voilà. Alors ça, c'est quelques-unes des manières, il y en aurait sans doute d'autres, mais par lesquelles, finalement, comme on n'a pas digéré le passé, ça ressort d'une manière ou d'une autre. Voilà. Du coup, l'importance de ce que je vais essayer de vous dire maintenant. Dieu nous offre justement cette opportunité de ne pas rester enfermés dans le mal, mais et particulièrement dans un jubilé. Le mot jubilé, ça veut dire qu'on est heureux aussi. Particulièrement, c'est couper ces liens avec ces choses du passé qui sont mauvaises. Alors, on parlera du pardon, mais on parle plus souvent du pardon que de la demande de pardon. Et je pense que c'est intéressant aussi de parler un peu de la demande de pardon. Parce que, alors, ça nous paraît assez simple de demander le pardon à Dieu, encore que certains ont beaucoup de mal à se confesser. Demander pardon tout seul devant sa croix, c'est plus facile. Mais aller demander pardon aux autres, c'est quelquefois un peu compliqué. Ou peut-être pas pour vous, mais... Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que l'indulgence, on la demande. On demande, et c'est lié au sacrement aussi de la réconciliation, chaque fois qu'on veut. Et puis, donc, on demande aussi pardon pour recevoir l'indulgence. C'est quand même le premier pas. Donc, je vais commencer par parler du pardon aussi avec les autres, pas seulement avec Dieu, demander pardon aux. Parce que. Quelquefois, avec Dieu, c'est un peu facile parce qu'il nous pardonne. Mais peut-être qu'on se fait un peu d'illusions aussi. Avec les autres, on se fait moins d'illusions qu'avec Dieu. Me revenait à l'esprit un verset du prophète Malachi. Quand vous présentez au sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas faire le mal? Et quand vous présentez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas faire le mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Sera-t-il content de toi? Te sera-t-il favorable? Bon, quelquefois avec Dieu on se permet des choses parce que voilà, il ne tombe pas dessus, etc. Avec les autres, on ferait un peu plus attention, quoi. Parce que alors du coup, ça vaut la peine de se demander comment je demande pardon aux autres et comment je m'y prends. Mais avant, je voulais quand même clarifier trois choses avant. De quoi est-ce qu'on demande pardon? De quoi faut-il? Qu'est-ce que c'est qu'une offense? Pour vous, c'est peut-être évident, mais pour beaucoup de personnes, en tout cas, on est plus attentif à pas faire de peine à l'autre qu'à ne pas l'offenser. C'est pas la même chose faire de la peine à l'autre ou l'offenser. C'est très différent. Je prends un exemple dans l'Évangile. Jésus qui est perdu au temple. Clairement, il a fait de la peine à Marie et Joseph. Ça, on ne peut pas dire. Est-ce qu'il les a offensés? Non. Si vous grondez vos enfants, alors après, il y a manière de le faire, mais vous donnez une pénitence à vos enfants. Bon, ça ne lui fait certainement pas plaisir. Mais est-ce que c'est une offense? Non. Si la pénitence est méritée, si elle est éducative, au contraire, c'est un acte de vertu de donner une pénitence. Et quelquefois, on confond offense et faire de la peine. Ce n'est pas la même chose. Ce dont on demande pardon, ce n'est pas d'avoir fait de la peine, c'est d'avoir offensé. Je pense que c'est important parce que dans nos esprits, quelquefois, on est un peu... voilà, c'est pas toujours clair. La souffrance peut être une conséquence, bien sûr, d'une offense, mais c'est de l'offense qu'on demande pardon. On demande pardon aussi parce que ça a engendré une souffrance, alors bien sûr. Mais c'est d'abord de l'offense qu'on demande pardon. C'est pas d'abord de la conséquence de l'offense. Voilà. Une autre chose qui est intéressante aussi, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est qu'on ne demande pas pardon pour soulager notre culpabilité. Là, on serait très égocentrique encore. Ça me pèse sur le cœur, donc je demande pardon. Alors, ça en fait partie, mais ce n'est pas d'abord pour ça qu'on demande pardon, c'est d'abord parce qu'on a fait du mal. Ce n'est pas parce qu'on se sent coupable. D'autant plus que entre la culpabilité et l'offense, ce n'est pas toujours très proportionnel. Il y a des fautes qui sont très graves et dont on n'a pas forcément beaucoup honte. Si vous vous mettez en colère d'un seul coup devant tout le monde, vous aurez quand même un peu honte après. On est tous pareils. En revanche, il y a des choses beaucoup plus graves que vous faites dans votre coin tout seul, mais qui sont infiniment plus graves. Donc, il y a un sentiment de culpabilité qui n'est pas forcément tout à fait objectif. Et pour ça, c'est important de se référer de temps à autre aux commandements de Dieu et de l'Église. Ça nous donne des repères quand même. Parce que sinon, on est dans la pure subjectivité, donc on peut se sentir coupable parce que dans la société, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. En revanche, un avortement dans la société, ça se fait, donc on ne se sent plus coupable. Mais du coup, ça déforme un peu notre sentiment de culpabilité. Il n'est pas ajusté par rapport aux offenses en tant que telles. Donc, c'est important de rectifier les choses, de former notre conscience pour se sentir coupable de certaines choses dont on est vraiment coupable. Et il y a des choses, c'est mal vu par la société, mais ce n'est pas du tout coupable de le faire. Je n'ai pas des choses qui me viennent à l'esprit immédiatement, mais vous pouvez aller à la chasse aussi. C'est pas un mal en tant que tel. Enfin, il y a quelques règles, etc. Mais sinon, notre conscience, c'est la conscience des médias qui remplace notre conscience. Mais non, c'est l'Évangile qui est notre père. C'est pas les médias. Puis encore un troisième point, c'est que c'est important de voir que l'offense, de voir aussi qu'est-ce qui était intentionnel ou pas de notre part. De fait, quelquefois, on fait des choses, on est responsable, mais on n'avait aucune intention de faire de mal. Du coup, ça nuance quand même un peu les choses. Il y a ce dicton, je ne sais pas comment on dit, mais responsable, mais pas coupable. Quelquefois, oui, ce n'était pas du tout notre intention. Je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Une maman a eu deux jumeaux. Il y a un des deux jumeaux qui n'allait pas très bien. Donc elle est repartie à la maison, de la maternité, un seul de ses jumeaux. L'autre, elle est restée à l'hôpital parce qu'il avait besoin. Lui, 20 ans après, il le vit douloureusement. Alors, sa maman, elle n'était pas coupable. Quelquefois, il y a des choses de notre vie, effectivement, mais on ne lui a pas laissé le choix. La maman, elle ne pouvait pas. Et du coup, il y a des choses, bien sûr, on le porte comme une... Mais il n'y a pas forcément un responsable en face. Elle n'est pas coupable, en tout cas. Et si on lui en veut un mort, de nous... la pauvre... elle n'avait pas l'intention, c'était pas du tout... Mais il y a beaucoup de choses de cet ordre-là dans notre vie. Il y a des choses, ça s'est passé comme ça, On peut choisir de s'y accrocher indéfiniment, mais on sera malheureux toute notre vie si on s'y accroche. Alors, après, je ne veux pas dire que ce soit simple, forcément, il y a des blessures, c'est pas d'un revers de main qu'on les efface, je dis pas. Mais voilà, ça c'était quelques éléments à avoir en tête on demande pardon d'une offense. Pas d'abord d'avoir fait souffrir. Alors, bien sûr, on peut, par là même aussi, et j'en suis d'autant plus désolé que je vois combien ça t'a fait souffrir, etc. Mais c'est d'abord de l'offense qu'on demande pardon. Alors, maintenant, je vais aborder quelques points sur les préliminaires. Avant d'aller demander pardon à quelqu'un, et quelques petites choses à faire. Oh, j'en ai bien 8. Alors, vous allez me dire, c'est toute une usine à gaz avant d'aller demander pardon. Je pense que c'est se préparer à savoir qu'est-ce que je vais dire et comment je vais le dire quand on va demander pardon. C'est important d'être assez précis quand même quand on demande pardon. Vous verrez dans ce que je vais... le premier pas, je pense que c'est reconnaître nos torts. Alors, pour notre amour propre, ça peut être un peu douloureux. Mais voilà, c'est un premier pas salutaire. Ça veut dire aussi pas minimiser ce qu'on a fait de mal. Ça veut dire aussi, quand on ira voir l'autre, pas faire une accusation détournée. Mais... j'aurais pas réagi comme ça si tu avais pas fait telle chose. Non, tu viens pour demander pardon, pas pour accuser l'autre. Et ça, quelquefois, on est assez bon pour détourner un peu les choses. Et, Et voilà. Et du coup, ce qui nous aide, c'est aussi de justement de qu'est-ce qui nous aide à reconnaître notre péché, c'est aussi de se savoir aimer de Dieu. Je pense que si c'est pour quelque chose de différent, mais un chartreux disait qu'on ne peut pas être humble si on n'avait pas de l'estime de soi. Ça nous paraît presque contradictoire, mais en fait, c'est tout à fait juste, parce que si on n'a pas d'estime de soi, on tombe dans un puits sans fond. Et de la même manière, je pense qu'on peut d'autant plus reconnaître ses torts qu'on a une certaine estime de soi et qu'on se sait aimé de Dieu. Et que c'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal que je suis mal, que je suis mauvais. Donc on cerne aussi le mal que j'ai fait, c'est pas tout moi qui suis tout noir. J'ai fait telle chose qui est mauvaise, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que je suis plongé dans le péché comme les apôtres disent à propos de l'aveugle de naissance. Non. Et je trouve que c'est intéressant pour pouvoir se regarder sans plus ni moins. Je ne suis pas le démon en personne. Alors j'ai fait des choses mauvaises, mais je ne suis pas le démon en personne. Donc voilà, reconnaître ses torts. Une deuxième chose, c'est de clarifier un peu nos motivations. Est-ce que je demande pardon pour l'autre ou pour moi? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que je veux me débarrasser de ma culpabilité ou est-ce que je veux que ça fasse du bien à l'autre? On voit que soit on se regarde soi-même, soit on regarde l'autre et ce qui fait du bien à l'autre. C'est pas la même chose. Quelle est ma motivation? Parce que quelquefois, ça peut être un pardon où on se lave les mains, et puis comme ça, on pense pouvoir passer à autre chose, comme ça. Mais oui, mais l'autre, il est. Voilà. Il a souffert à cette occasion-là. Ou quelquefois, on passe un petit peu. Voilà, on veut vite oublier l'épisode, mais. L'autre en face, il est peut-être pas prêt d'oublier, donc il faut peut-être accepter de prendre du temps, que ça prenne du temps, etc. Quelle est ma motivation? Est-ce que c'est vraiment renouer la relation? Si c'est renouer la relation, ça prend quelquefois du temps, ça se fait pas en... Et ça suppose d'écouter l'autre, mais on va y venir. Voilà. En tout cas, clarifier motivation. Pourquoi je veux demander pardon? Troisième élément, c'est prendre conscience du tort que j'ai causé à l'autre. Parce que une chose est de reconnaître son tort, autre chose est d'en prendre conscience et de laisser l'autre libre. Ça veut dire de laisser un espace où l'autre peut exprimer ce qu'il a blessé. Et du coup, ça suppose de l'écouter, l'autre. Et ça, c'est. Alors, je pense à quelqu'un que j'aime bien, par ailleurs, mais je trouve qu'il a une naïveté un peu déconcertante. Quelquefois, il a des réactions assez violentes. Les gens sont KO quand ils. Oui, ça arrive assez régulièrement. Et lui, après, presque avec candeur, je ne sais pas comment dire, vient me dire, ben, je suis allé demander pardon, et puis la personne me fait toujours la tête. J'ai dit, mais oui, mais quand on a pris un bon chaos, il faut un petit peu de temps pour s'en remettre quand même. Ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements. Et alors, c'est quelqu'un de très intelligent par ailleurs, mais qui m'étonne toujours. Parce que on peut désirer pardonner, mais bon, on a besoin de digérer quand même quand on a pris un grand coup. Et du coup, quand on demande pardon, c'est respecter l'autre, lui laisser le temps dont il a besoin. Je lui demande pardon, mais je lui dis pas, tu dois me pardonner. Non, il y a un minimum de respect à avoir vis-à-vis de l'autre. Je lui demande, il me donne pas son pardon. J'impose pas ma demande. Un quatrième point, c'est, alors après avoir dit ça, je mets un petit bémol. quelquefois, quand on demande pardon, il faut aussi savoir se protéger si l'autre est trop en colère. On ne peut pas être complètement naïf quand on va demander pardon. Parce que quelquefois, l'autre... je vous raconte une histoire personnelle. Je vous raconte ma vie, décidément. Je ne sais pas si c'est intéressant. Mais une personne m'avait... Bon, c'était crêpé le chignon, on va dire ça. Et après, je me dis, ben non, il faut y aller. Il faut aller demander pardon. Mais comme dans bien des cas, les torts sont souvent partagés. Ce n'est pas 100% dans beaucoup de cas. Donc, alors, heureusement... Je m'étais préparé devant le bon Dieu en préparant un peu ce que je pouvais dire, tout ça. Et quand je suis allé voir la personne, je me suis fait engueuler comme jamais. Alors, c'est vrai que sur le moment, j'étais tout peu... Bon, je n'ai pas réagi, mais j'étais... Parce que je me dis, non, sinon ça fait rebondir et puis on n'en sort pas. Mais ça m'a profondément affecté pendant des jours et des jours, parce que j'ai enlevé toute la cuirasse, toc, j'y vais, plus de cuirasse, tout vulnérable, et là, quelques coups de bâton. Bon, alors, du coup, il faut aussi connaître un petit peu l'autre, ou quand même anticiper autant qu'on le peut. Peut-être qu'il n'est pas prêt, il était dans sa colère noire, il n'était pas prêt à m'écouter, et peut-être que j'avais pas assez de discernement pour dire, mais il faut peut-être que j'envoie quelques ambassadeurs avant pour que la colère atteigne des taux. On ne sait pas toujours très bien comment faire, hein. On tâtonne et voilà. Mais j'attire juste cette attention parce que quelquefois, mais il faut respecter aussi la colère de l'autre quelque part. Et puis, mais pas non plus s'exposer outre mesure, parce que ça peut faire très très mal aussi quand on y vient tout vulnérable et qu'on se fait et que l'autre en profite pour nous en remettre une couche. Voilà. Cinquième chose, c'est de regretter ce qu'on a fait. Une chose est de reconnaître nos torts, autre chose est de le regretter. Le curé d'Ars disait, il ne suffit pas de sortir les ordures d'une maison, il faut la laver à grande eau, et ce sont les larmes de la contrition. Ou le curé d'Ars disait encore, nous nous accusons à la vapeur. On dit qu'il y en a beaucoup qui se confessent et peu qui se convertissent. Je le crois bien, mes enfants. C'est qu'il y en a peu qui se conversent avec les larmes du repentir. Donc, il ne suffit pas de reconnaître ses torts. Il faut aussi regretter, c'est ce qu'on trouve dans l'acte de contrition, la contrition. Un sixième point, mais quand on va devant la personne, il y a un discernement encore à faire. Alors, j'ai parlé de la colère, là, je vais parler de la personne qui est manipulatrice. Parce que quelquefois, les manipulateurs, c'est une des caractéristiques des manipulateurs, c'est de jouer sur nos sentiments de culpabilité. Alors, j'ai eu aussi cette expérience. Hein. Alors, une personne manipulatrice, ça c'est clair. Et du coup, c'est vrai qu'on a vu un clash. Moi, c'était inconcevable de ne pas se réconcilier, donc j'y vais. Mais après toutes les tentatives, je me rendais bien compte que... alors, demander pardon, ça ne me faisait aucune difficulté, demander pardon sur la manière un peu brutale avec laquelle j'avais pu lui parler, etc., sans aucun souci. C'était moi. En revanche, revenir sur le fond, ça, je ne pouvais pas. C'était me renier moi-même. Et... parce que cette personne avait objectivement des choses qui n'allaient pas. Et du coup, je n'allais pas dire, non, non, tu vas très bien, c'est moi qui ai tout faux. Non. Sur la manière, oui, j'étais prêt à reconnaître, mais sur le fond, non. Du coup, on n'oblige pas quelqu'un à se réconcilier, il ne veut pas, on fait des tentatives, et ben après, non. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne doive pas lui pardonner. Mais la réconciliation, comment on l'abordera, ce n'est pas toujours possible. parce que je ne peux pas me renier non plus. C'est pour ça que c'est important d'être précis dans le pardon. De quoi je demande pardon? Et du coup, ça demande quand même un peu de préparation pour savoir. Ça demande un peu de temps aussi pour voir exactement là où j'étais mauvais. Hein, il ne faut pas non plus se rendre responsable de tout. Il y a des personnes qui se rendraient responsables de tout. Non, on a une part de responsabilité, mais pas forcément 100%. D'autant plus que dans nos relations, souvent, c'est un peu... c'est pas forcément 50-50, mais il y a quand même des... c'est pas forcément noir ou blanc, blanc-noir. Septième, surmonter l'appréhension et la peur en nous tournant vers Dieu. C'est vrai que quand on va demander pardon, on ne fait pas le fier. Ça met un peu de... notre amour propre, on prend un petit... Et du coup, de vraiment vivre ce moment avec Dieu. Le pape François a eu une très belle homilie sur le pardon le 25 mars 2022. C'était une messe à propos de l'Ukraine, je crois. C'était le 25 mars, c'était le jour de l'Annonciation, mais c'était un jour de prière justement pour la paix. Et du coup, de tourner notre regard vers Dieu, qui, voilà, parce qu'il nous aime vraiment. Et du coup, ça peut nous aider justement à surmonter ce sentiment de peur. Et puis, dernière chose, avant d'aller rencontrer l'autre, c'est est-ce que je suis prêt à assumer ma responsabilité et quelquefois à réparer ce que j'ai, autant que faire se peut. Alors déjà, dans l'Évangile, quand on voit les gens qui viennent à Jean-Baptiste, c'est un baptême de conversion, et ils disent « que devons-nous faire ?» Hein, on voit cette disponibilité à changer, ben voilà. Mais quand les auditeurs de Saint-Pierre, le matin de la Pentecôte, alors Pierre proclame le kérigme, mais après aussi leur question c'est « que devons-nous faire ?» C'est « est-ce que je suis prêt à changer, à réparer quelque chose ?» Dans l'acte de contrition classique, il y a deux parties, hein, la partie vers le passé, mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, et puis après, la deuxième partie, c'est vers l'avenir, je prends la ferme résolution. Hein, donc c'est pas un vague, bon, mais vraiment on se projette vers l'avenir, est-ce que je suis prêt à bouger ou pas? Et tout ça, je suis que dans les préliminaires. Après, donc, j'en viens maintenant au déroulement. Alors là, je vais commenter un peu pour la confession. Dans la confession, je vais sauter quelques petites choses, mais vous êtes peut-être plus familiers avec ça. C'est l'aveu. Déjà, mettre des mots, c'est très intéressant de mettre des mots sur ce qu'on a fait mal, pour ne pas s'accuser comme ça, un peu dans le vague. Mais parce qu'après aussi, si on veut progresser, si on ne met pas de mots, on aura du mal à progresser. Quelquefois, il y a des gens qui disent « Pourquoi faut-il se confesser à un prêtre ?» Alors, je leur retourne la question. « Qu'est-ce qui vous gêne d'aller vous confesser à un prêtre ?» Ben, en fait, c'est une démarche d'humilité aussi, l'aveu, hein. Ce qui va dans le sens de ce qu'on a dit avant, hein, cette préparation de... C'est vrai que c'est un peu mortifiant. Comme une belle image de l'Ancien Testament, pour parler de ça, c'est Naaman le Syrien. Vous vous rappelez, il va voir le prophète Élisée, et Élisée se dérange même pas pour aller lui dire... alors quand même, c'était le général en chef. Et du coup, il lui dit, va te baigner 7 fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra nette. Alors, au début, il est quand même piqué dans son amour propre. Donc, il dit, non, quand même, je méritais un peu plus de considération. Et c'est ses serviteurs et ses servantes qui disent, mais il t'aurait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Là, il te demande quelque chose de facile. La seule chose, c'est que ça mortifie un peu ton amour propre. Mais du coup, tu ne veux pas le faire. Alors, grâce à ses serviteurs et ses servantes, il va se baigner et sa chair, elle devient nette. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est... Et vraiment, le dire son péché dans l'aveu, c'est aussi mettre le péché à l'extérieur. C'est... Voilà. C'est dire son péché. Après, c'est votre travail dans la confession. Après, le travail du prêtre, c'est de vous donner le pardon et vous de l'accueillir. Je ne m'étends pas là-dessus. Et après, Alors, le prêtre vous donne une pénitence, hein. Lourde, j'espère. Alors après, chaque prêtre a sa manière de faire, hein. Donc, l'idée, c'est aussi de montrer notre volonté. C'est Jésus qui nous pardonne. Mais voilà, on veut faire apporter notre... ça manifeste au moins notre bonne volonté. Oui, je veux réparer un petit quelque chose du mal que j'ai fait. Et puis après, je rajoute, mais après, ça sera pour la dernière partie, c'est l'action de grâce après la confession. C'est important aussi d'avoir cette partie d'action de grâce. Bon. Je passe à la dernière partie. Le lien entre le pardon qu'on a reçu et le pardon qu'on va redonner. C'est le pardon en cascade, on va dire. Et justement, c'est un peu l'idée du jubilé aussi. On reçoit l'indulgence, mais pas de manière un peu égocentrique. Bon, je reçois l'indulgence, comme ça j'irai au ciel à la fin de mes jours. Mais on reçoit l'indulgence pour la redonner, pas pour en jouir égoïstement. Sinon, on n'est pas dans la logique du jubilé. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. C'est Saint Paul qui nous dit ça aux Colossiens. Et ce lien entre le pardon qu'on reçoit de Dieu et celui qu'on est appelé à donner aux autres, à accorder aux autres, apparaît à, je vais vous citer quelques bribes de l'Évangile. Bon, il y a cette fameuse parabole du débiteur impitoyable, chapitre 18 de Saint Matthieu. Vous vous rappelez un peu cette parabole, hein. Il y en a deux. Il y en a un qui doit 60 millions de pièces d'argent, donc il lui remet. Et après, il rencontre son ami qui lui doit 100 pièces d'argent. Et donc, il lui saute au cou et puis il veut l'étrangler. Mais vous remarquez dans cette parabole, c'est celui qui a l'initiative, c'est le maître au départ. On peut mal comprendre la prière qu'on retrouve dans notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu n'attend pas qu'on pardonne aux autres pour commencer à nous pardonner, heureusement on serait mal pris. Hein. Mais c'est comme une cohérence à vivre entre le pardon que j'ai reçu de Dieu et le pardon à donner à l'autre. On le voit bien dans cette parabole. Mais ça revient plusieurs fois. Donc, vous voyez, il y a le Notre Père dans Saint Matthieu, et puis à la fin, il y a pour en remettre une couche, Saint Matthieu remet deux versets pour parler justement du pardon. Ça, c'est le chapitre 12, c'est « Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous avons déjà remis à nos débiteurs. » Et chapitre 14, versets 14 et 15, si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Ou à un autre endroit, du jugement dont vous jugez, on vous jugera. Et de la mesure dont vous mesurez, on usera pour vous. Ou dans Saint Luc, ça c'était le leitmotiv du jubilé de la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Alors, il y a comme une cohérence. Je vous cite une phrase de Saint-Pierre Chrysologue qui l'exprime très bien. C'est être un solliciteur insolent que de demander pour soi-même ce qu'on refuse à autrui. Sois la norme de la miséricorde à ton égard. Si tu veux qu'on te fasse miséricorde de telle façon, selon telle mesure, avec telle promptitude, fais toi-même miséricorde aux autres avec la même promptitude, la même mesure, de la même façon. Et alors, je me suis posé la question, mais pourquoi le créancier a refusé de remettre la dette? Parce que, intellectuellement, c'est complètement stupide. On lui a remis, je ne sais pas, du coup, il ne s'est plus calculé, on lui a remis 60 millions de pièces d'argent. Et après, il fait une crise parce que l'autre lui doit 100 pièces d'argent. On dit, il y a quelque chose qui ne colle pas, il ne sait plus réfléchir. Alors, je propose plusieurs possibilités. Je pense qu'il est resté dans un statut de victime. J'y reviens un petit peu parce que Du coup, pour lui, ce qui l'omnubilait, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui devait 100 pièces d'argent. Mais du coup, il reste avec ça. L'autre a eu beau lui remettre 60 millions de pièces d'argent, mais voilà, il est sclérosé dans ce statut et puis il peut pas passer à autre chose. C'est curieux, mais c'est comme ça. Mais de fait, pour nous, le compteur souvent ne marche pas de la même manière à l'égard des autres, à l'égard de nous-mêmes. Là, 100 pièces d'argent, ça lui paraissait beaucoup, beaucoup. 60 millions de pièces d'argent, ça lui paraissait pas beaucoup, subjectivement. Hein. Je pense que quelque part, il y a quelque chose dans nos compteurs qui ne marche pas. Hein. Ce qu'on nous fait à nous, ça prend des proportions. Ce qu'on fait aux autres, oh, finalement, ça ne nous empêche pas de dormir, hélas. Je pense qu'un autre élément, peut-être, c'est qu'il ne mesurait pas la dette qu'il avait à l'égard de son maître. Je pense qu'il n'avait pas calculé. Il était en dette, c'est tout, mais il n'a pas apprécié ou évalué cette dette. Elle était tellement importante qu'il ne se rendait plus compte. Et du coup, il n'avait sans doute pas regretté, oui, en tout cas, il ne l'avait pas intégré. Il n'avait pas intégré aussi le fait que le pardon de son maître était purement gratuit. Il aurait pu s'émerveiller. Et puis, si son maître lui avait pardonné, c'est que il avait de l'importance aux yeux du maître. Parce que s'il n'avait aucune importance, le maître a fait du sentiment, en quelque sorte. Il s'est laissé apitoyer. Il est sorti du calcul pour lui remettre. Mais ça, il est... Bon, il calcule mal. Et du coup, nous, comment on peut faire? Mais je pense que c'est déjà de prendre davantage conscience de nos fautes à l'égard de Dieu ou à l'égard des autres aussi. Mais là, puisqu'il s'agit de pardonner comme Dieu nous a pardonné, mieux prendre conscience de ce que Dieu nous a pardonné. Il y a beaucoup de saints qui ont été habités par saints toujours. Ben Saint Paul, pour commencer, moi qui étais un blasphémateur et tout ça, Dieu m'a pardonné. C'est pas passé comme une lettre à la poste, ça l'a profondément marqué. Comme il a fait pour me pardonner, il aurait pu m'envoyer en enfer ou je sais pas quoi. Saint Pierre aussi, après son reniement, ça l'a profondément marqué après. Alors, c'est même sur une encyclique où il est indiqué justement que Pierre, quelque part, il a été adouci dans l'exercice de son ministère par l'expérience où il a renié. Alors, il était moins intransigeant avec les autres à partir de ce moment-là. Mais souvent, du coup, mieux prendre conscience de ce qui nous est pardonné, ça nous aide à justement entrer dans cette logique. Saint François d'Assise aussi, c'est un moment très important dans sa vie, c'est quand il... Entre le fait de le savoir intellectuellement et de le savoir que ça nous bouleverse, il y a souvent un grand pas. Et lui, un certain jour, alors on marque dans un lieu à Poggiobussone, hein, c'est dans la vallée de Rieti, donc c'est là il a eu la certitude du pardon de ses péchés. Et alors, c'est comme si ça l'a débloqué complètement, c'est de là aussi qu'ils sont partis évangéliser, etc. Ils étaient 8, donc il a dit 2 à chaque point cardinal. Mais c'est le lieu aussi où il a eu l'assurance du pardon de ses péchés. Et du coup, vraiment de pratiquer la gratitude par rapport au pardon reçu. Oui, on voit aussi que finalement, on ne pardonne pas de manière, pour ainsi dire, égocentrique, mais de voir que celui à qui avait été remis 60 millions de pièces d'argent, finalement, il est malheureux. Et finalement, ça se termine mal pour lui, parce qu'il a refusé ce pardon. Quelque part, c'est entrer dans la logique de Dieu. Ce n'est pas simplement un pardon extérieur. Dieu restaure cette relation, mais pour qu'on soit de la même patte que lui et qu'on pardonne comme lui nous a pardonné. Il veut nous rendre semblables à lui, quelque part, le bon Dieu, en nous pardonnant. Il nous en donne la possibilité, ce n'est pas d'abord un commandement comme extérieur. Hein, il nous donne cette possibilité aussi de pouvoir pardonner. C'est aussi une grâce qu'on a de pouvoir pardonner, on en reparlera. Hein. Ce n'est pas d'abord une question un peu volontariste, mais c'est d'abord parce qu'on a vu combien on a été pardonné qu'on devient en mesure de pardonner aussi. Ah, alors, et, oui, j'avais quelques lignes. Je me suis dit, puisque c'est sur le jubilé, il faut peut-être que je leur dise un mot. Hein. Alors, ça sera la conclusion. Ça sera un peu bref et un peu schématique, mais... Alors, vous pouvez, au choix, faire un pèlerinage ou une visite des lieux saints. Alors, donc vous pouvez aller à Rome, vous pouvez aller à Jérusalem, à Nazareth, à Bethléem, mais vous pouvez aller, c'est moins loin, à la cathédrale de Noyon, 6 km, c'est quand même pas trop loin, Beauvais, Senlis, ou vous pouvez aussi aller dans l'Aisne, Soissons, je pense. Enfin, je ne sais pas, souvent c'est la cathédrale du lieu, peut-être Soissons et Lens, je ne sais pas quels sont les lieux, c'est l'évêque qui désigne, c'est officiel, voilà tel lieu. Alors, nous, il y a ces trois lieux, plus un quatrième lieu, Notre-Dame de la Source, mais juste une journée, ça c'est le 7 juin, Notre-Dame de la Source à Compiègne. Parce que c'est le jour du grand rassemblement diocésain et c'est l'évêque qui peut fixer des lieux pour recevoir l'indulgence jubilaire. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire des exercices spirituels ou des actes de miséricorde corporelle ou spirituelle. C'est aussi une manière de... Voilà, une autre voie que celle d'aller dans des pèlerinages. Alors, après, il y a trois conditions qui sont habituelles, c'est se confesser. Alors, ce n'est pas forcément le jour même. Il y en a qui disent 20 jours après ou avant, enfin, dans les quelques jours qui accompagnent la démarche. La communion, le jour, normalement. Et puis, de prier aux intentions indiquées par le pape. Alors, la note qui a été publiée, je vous lis, souligne l'importance des actes de pénitence, notamment en retrouvant la valeur pénitentielle du vendredi, en s'abstenant au moins durant une journée de distractions futiles ou de consommation superflue. Quelques idées pour... Et du coup, une autre chose, le prêtre, quelquefois, mais ce n'est pas très fréquent, dit une prière à la fin de la confession. Je vous l'ai dit, que la passion de Jésus-Christ notre Seigneur, l'intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, tout ce que vous ferez de bon et de supporterez de pénible, contribue au pardon de vos péchés, augmentant-vous la grâce pour que vous viviez de Dieu. Ça va dans le sens de l'indulgence. Hein. C'est l'indulgence, ça c'est à la fin de la confession, donc on est la peine de la séparation, on est réconcilié avec Dieu, c'est le sacrement de la réconciliation, mais il reste cet attachement au péché, ce dommage aussi qu'on répare, qu'on peut réparer de diverses manières, par des actes de charité, des pénitences, etc.